Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. C'est au printemps 2016 que Emily Jane White fait paraître The Moved in Shadow All Together, disque de crépuscule, évoluant lentement et majestueusement en une danse immémoriale que Emily Jane White semble incarner sur la pochette de l'album. Photographiée à contre-jour et en contre-plongée, on ne devine d'Emily que le mouvement, on ne discerne que sa silhouette, on n'éprouve que la diffraction du rythme de ses mains magiques. Seul le ciel et ses nuages partagent le cadre avec Emily Jane White et il se dégage de cette pochette superbe une impression de sorcellerie. Comment diable Emily s'y prend-elle donc ? Les ingrédients sont connus, une guitare, un piano, un violoncelle, une basse et des percussions, mais leur combinaison échappe à toute recette éprouvée. Et la voix, bien sûr, une voix plus maîtrisée que jamais entre sophistication extrême et plainte animale qui brouille toute tentative de cartographie, définitivement nous perd entre chien et loup. Il convient de remercier Emily Jane White ainsi que le label qui l'accompagne depuis 5 albums à présent, le label bordelais Talitre, de continuer à nous livrer cette musique hors d'âge, de persister à nous perdre dans les bois sombres tels de petits poussés consentants et légèrement effrayés. Quand on se réveille, ne subsiste souvent des rêves qu'une sensation, un sentiment, une subtile modification de l'atmosphère, une légère irréalité qui bientôt, on le sait, s'évanouira. Il est de même de la musique de l'américaine Emily Jane White.
Is your veil?
Le violoncelle est l'instrument à cordes qui pourrait me définir le plus précisément, explique Emily Jane White. Sa résonance dresse à merveille tristesse et mélancolie. Il est le voile, le brouillard tout en étant la lumière qui guide, les percussions s'apparentant davantage au cœur et au sang. C'est au sujet plus particulièrement de son disque « They Moved in Shadow All Together » paru au printemps 2016 que la musicienne s'exprime ainsi. « They Moved in Shadow All Together », étrange titre, emprunté à une des phrases augurales du roman « Outer Dark, l'obscurité du dehors » en français, de l'immense écrivain américain Cormac McCarthy. Dans sa traduction française, effectuée par François Hirsch et Patricia Schaeffer, le livre commence ainsi. Ils surgirent sur la crête de la falaise, dans le soleil de l'après-midi finissant, leurs ombres étirées, dessinées sur la rouche et les carex calcinés, se déplaçant à la file et lentement, à l'aplomb de la rivière, avec quelque chose de sa propre implacabilité, s'arrêtant et se regroupant un instant, et repartant alignés les uns derrière les autres à contre-jour dans le soleil, puis descendant sous la crête de la colline dans un repli d'ombre bleue, la lumière touchant leurs têtes auréolées de fausse sainteté, et ils continuèrent ainsi, jusqu'au moment où l'on vit le soleil disparaître tout à fait, de sorte qu'il se déplaçait entièrement dans l'ombre, ce qui leur convenait fort bien. Quand ils atteignirent la rivière, il faisait nuit noire, et ils dressèrent le camp, et ils allumèrent un petit feu autour duquel leurs ombres se déplaçaient dans un anonyme balai noir. L'obscurité du dehors, paru en 1968, est le second roman de McCarthy. On y trouve déjà les thèmes qui parcourront toute son œuvre jusqu'au succès que rencontre son 10e ouvrage, paru en 2006, The Road, la route, en français. Sur ce succès, l'éditeur du livre en France, Olivier Cohen, des éditions de l'Olivier, propose une explication. Plus qu'un roman, ce récit, The Road, est une fable. Pour cette raison, il est plus facile à lire qu'un roman plus épuré. Tous les publics peuvent s'en emparer, notamment les adolescents. La route est un peu, dans l'œuvre de McCarthy, ce que Le vieil homme et la mer est dans celle de Hemingway, un concentré de l'œuvre, mais sous forme de conte. Il fait partie des livres qui deviennent des classiques instantanés. Le mystère et le doute qui en entourent le sens, ou pour mieux dire, les différentes significations possibles, permettent à chacun de se l'approprier. C'est un peu comme Kafka, McCarthy est le révélateur d'une angoisse collective à laquelle il a su donner une forme. J'ai rencontré des lecteurs qui pleuraient en en parlant, comme si le livre s'adressait directement et intimement à chacun d'eux. Comme No Country for Old Men par les frères Cohen, The Road sera adapté au cinéma par John Hillcoat. La musique en fut confiée à Nick Cave et Warren Ellis. Thank you. continuaient, maigres et crasseux comme des drogués au coin d'une rue, encapuchonnés dans leur couverture pour se protéger du froid, la laine fumante, peinant dans les noires et soyeuses congères. Ils traversaient la large plaine côtière où les vents profanes, en les poussant dans des nuages de cendres rugissants, les forçaient à trouver refuge où ils pouvaient. Dans des maisons ou des granges, ou au pied d'un remblai dans un fossé au bord de la route, avec les couvertures sur leur tête et le ciel de midi noir comme les caves de l'enfer. Il tenait le petit contre lui, transi jusqu'à l'os. « Ne perds pas courage, disait-il. Ça va aller. » C'était quelques lignes extraites du livre de Cormac McCarthy, « La route », dans la traduction que François Hirsch en fit pour les éditions de l'Olivier. Auparavant, on put entendre quelques minutes de la bande originale du film La Route, The Road, adaptation du livre, donc, dont la musique fut signée par Nick Cave et Warren Ellis. Les deux musiciens australiens, déjà compagnons de route au sein des Bad Seeds et de Grinderman, ont co-signé de nombreuses bandes originales de films. Ainsi, The Road et The Proposition de John Hillcoat, West of Memphis de Peter Jackson, Loin des hommes de David Holofun sont baignés dans les eaux faussement calmes, à coup sûr mélancoliques, des deux musiciens. La musique du film The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford a elle aussi été composée et interprétée par Ellis et Cave. Jesse James a fortement influencé l'imaginaire des cinéastes, mais aussi des musiciens. Le célèbre hors-la-loi, qui sévit longtemps dans le sud des États-Unis et enchaîna les attaques de trains, de diligences et de banques, finit tué par un membre de sa propre bande, Robert Ford, le lâche Robert Ford, attiré par la récompense de $10,000 qui était à la clé. Cette histoire héroïque et tragique de bravoure et de trahison fut chantée par John Lee Hooker, Alan Lomax, Bruce Springsteen, Bob Dylan, The Pogues. En 1978, dans son premier album, Kate Bush signe James and the Cold Gun. James est, bien sûr, Jesse James.
Yeah!
Kate Bush est découverte par le guitariste de Pink Floyd, David Gilmour, quand elle n'a que 18 ans. Et c'est avec lui que 2 ans plus tard, elle enregistre son premier album pour le label qui signe Pink Floyd, EMI. The Kick Inside paraît donc en 1978 et rencontre très vite un succès mondial. La voix de soprano de Kate Bush, tantôt enfantine, tantôt presque perverse, s'étend sur 4 octaves et sert une musique qui puise autant dans le folk et le rock que dans les musiques du monde. Pour ce premier disque, un combo de musiciens exceptionnels entoure la jeune Kate Bush, son frère Paddy Bush, qui l'accompagne depuis toujours, David Gilmour, donc, des membres des groupes Alan Parsons Project, Soft Machine et Camel. Est également invité sur la session le guitariste Alan Parker, au curriculum vitae prestigieux. On l'a entendu déjà sur Hurdy-Gurdy Man de Donovan, 1984 de David Bowie, No Regrets des Walker Brothers. On le retrouve dans les albums de Serge Gainsbourg, signés dans les années 70, et il sera présent en 1984 sur The Wall de Pink Floyd. En 1972, Alan Parker avait été magistral sur le disque de Al Cooper, A Possible Projection of the Future. En 1972, quand paraît son album Possible Projection of the Future, Al Kooper n'a pas 30 ans et il est déjà fort d'une impressionnante carrière. Dans les années 60, Kooper semble avoir été partout à la fois. Il joue au sein de The Blues Project, fonde Blood, Sweat and Tears, enregistre avec Jimi Hendrix et les Rolling Stones. Mais son fait d'armes, ce pourquoi il est assurément le plus connu, c'est sa collaboration avec Bob Dylan. Au printemps 1965, le jeune guitariste Al Kooper, qui a 20 ans, parvient à s'immiscer dans une séance de Bob Dylan. Ce dernier a fait paraître quelques semaines auparavant le disque Bringing It All Back Home, sur lequel il introduit pour la toute première fois quelques notes d'électricité. Cette session est importante pour Dylan. Il souhaite transformer l'essai, créer un nouveau son, brancher ses chansons folk et blues sur le secteur. Kooper débarque dans ce contexte et est très vite déçu. Le poste de guitariste est déjà occupé par Mike Bloomfield, présent alors. Mais Kooper ne se démonte pas et, profitant d'un flou dans les consignes données par le producteur de la session, Tom Wilson, se glisse derrière l'orgue électrique vacant. Dylan lance la chanson, Kooper improvise sur l'orgue dont il ne joue jamais, quelques notes qui feront légende. Ainsi, ce jour-là, Dylan trouve-t-il enfin le son qu'il désire, ce son de Mercure en fusion, ce rhythm and blues flamboyant et échevelé, qui est un marqueur dans l'histoire de la musique populaire. Les accords sinueux de l'orgue de Kooper, qui constituent un des plus flamboyants accidents de l'histoire du rock, en constituent un élément matriciel. Ce morceau déterminant, que le magazine Rolling Stone, en 2010, 45 ans plus tard donc, définira comme la plus grande chanson de tous les temps, s'intitule « Like a Rolling Stone ». Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Thank you.
and let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? Take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Now you got no secrets to conceal.
La rencontre entre la violence des mots de Dylan, ses intonations de plus en plus insolentes, l'électricité du rock et la nervosité intense dégagée par ses musiciens hors pair aboutit à ce véritable tremblement de terre qu'est Like a Rolling Stone. Ce morceau est un peu les Demoiselles d'Avignon ou le à bout de souffle du rock. Il fait basculer le folk dans l'âge moderne, point de rencontre révolutionnaire entre sa tradition narrative et une modernité abstraite et introspective. Le sens de la chanson n'est pas parfaitement clair et ne cherche pas à l'être. Like a Rolling Stone donne une expression neuve et inouïe à ce mélange confus de frustration, de désir de provocation anarchiste et d'idéalisme qui hante toute une génération. C'est Mishka Assayas qui signe l'article consacré à Bob Dylan dans le dictionnaire du rock. Et voici donc un extrait de celui-ci, le passage, consacré à la création de la chanson Like a Rolling Stone. Les deux principaux auteurs du nouveau son de Dylan, Al Kooper à l'orgue et Mike Bloomfield à la guitare, partiront ensuite en tournée avec Dylan et se retrouveront sur la session de l'album qui s'ouvrira avec cette chanson de légende, Highway 61 Revisited. Mike Bloomfield était alors, aux États-Unis, un des plus grands guitaristes et peut-être le plus grand guitariste de blues. Considéré comme la réponse américaine à l'anglais Eric Clapton, il était, de 1965 à 66, le guitariste du Paul Butterfield Blues Band.
Baby, please don't walk out on me. I will never hurt you.
Someone else will really hurt you. Baby, please don't walk out on me. And honey, please stop being so mean to me. You know that I love you. I don't prove that I love you. Please stop being so mean to me. I've given you my money, baby, and a loving too. I've done everything that a fool can do to try and to keep you happy and satisfied. I want you by my side. Baby, please don't say no to me till you heard my story. 'Cause you just might like my story. Baby, please don't say no to me. Don't say no, babe. Baby, please. Don't say no to me.
Le chanteur et harmoniciste Paul Butterfield est, comme Mike Bloomfield, avec qui il va fonder le groupe Butterfield Blues Band, originaire de Chicago. C'est dans cette ville, historique du blues, que les deux jeunes hommes vont découvrir émerveillés les bluesmen historiques, joués dans les clubs du South Side de Chicago, et ainsi faire naître en eux une passion pour le blues qui dirigera leur destinée musicale respective. C'est en regardant ces vieux maîtres, Buddy Guy, Otis Rush, Muddy Waters, Howlin' Wolf, puis en jouant à leur côté, que Butterfield et Bloomfield deviennent des musiciens hors pair, pétris de la belle tradition du blues. Ils fondent en 1965 The Paul Butterfield Blues Band. Ils accompagneront Dylan dans sa conversion électrique et sortiront deux disques fondateurs en 65 et 66. East West, dont est extrait le titre Never Say No, est le second d'entre eux. The Butterfield Blues Band fut le premier groupe électrique multiracial. La rythmique en était composée du batteur de jazz Billy Davenport et du bassiste de la formation de Howlin' Wolf, Jerome Arnold. Howlin' Wolf, le voici, dans son tout premier 45 tours, gravé en 1951. Cette galette s'intitule « Moaning at Midnight ».
Thank you.
De nombreux musiciens du Delta, Howlin' Wolf monte à Memphis puis à Chicago pour tenter sa chance. Son vrai nom est Chester Burnett et enfant, il travaille dans la plantation de coton où ses parents sont nés, dans la région de Tupelo, Mississippi, et chante dans le temple baptiste où son oncle est prêcheur. Installé à Memphis à la fin des années 40, il travaille dans les champs la semaine et joue le blues le week-end. Ses hurlements font qu'il est surnommé Howlin' Wolf, le loup hurlant. Il anime également une émission pour la radio locale, sponsorisée par un fabricant de matériel agricole, KWEM. C'est alors qu'il est repéré par un jeune musicien local, Ike Turner. Howlin' Wolf enregistre alors son premier 45 tours, ce Moaning at Midnight, en 1951, pour le tout jeune label basé à Chicago, Chess Records. On retrouve Ike Turner au piano sur cette chanson. Ike deviendra très connu, lui aussi, dès le moment où il commencera de se produire avec une jeune chanteuse qui deviendra bientôt sa femme, Tina Turner. Ike and Tina Turner enregistrent leur premier album en 1961. 10 ans plus tard, paraît un de leurs plus beaux disques, Working Together. Working Together de Ike and Tina Turner paraissent sur le label Liberty au début des années 70. S'y mêlent compositions originales de Ike Turner, dont par exemple Funkier Than a Mosquito's Twitter, que reprendra plus tard avec un égal succès Nina Simone, et reprises de chansons rock telles Get Back et Let It Be, deux reprises de classiques des Beatles, enfiévrées, chaloupées, transfigurées. Parmi ces reprises, on trouve aussi le titre qui s'avérera le plus grand succès de Ike and Tina Turner, un titre qui leur sera dorénavant intimement associé, Proud Mary. Cette chanson magnifique fut cependant composée 2 ans plus tôt par John Fogerty et publiée sur le deuxième album de son groupe, Creedence Clearwater Revival. L'album s'intitule Bayou Country et définit idéalement l'esthétique musicale du groupe, ce rock du bayou, lent, hypnotique, moite et fort de superbes fulgurances mélodiques. Proud Mary est une chanson magnifique. Elle sera reprise par Solomon Burke, Ike and Tina Turner, Elvis Presley et par des centaines d'autres artistes. La suite d'accords est irrésistible, le rythme frénétique, la mélodie lumineuse et les paroles empruntent à un symbolisme que n'aurait pas renié Bob Dylan, avec cette image rémanente de la grande roue qui ne cesse de tourner, la roue des bateaux à aubes qui remontait le Mississippi, Big Wheel Keep on Turning. La chanson nous conte l'histoire d'une domestique lasse de s'éreinter à la tâche pour son fainéant d'homme qui décide de tout quitter et d'embarquer pour une vie nouvelle. La roue à aubes devient roue du destin, nouveau départ, recommencement. Il est encore une fois question de l'éternel rêve américain.
Keep on.
quatre années bénies, de 1969 à 1972, ce quatuor de San Francisco fut tout simplement le meilleur groupe de rock'n'roll de la planète, peut-être même le seul de son temps. Grâce au talent de son auteur, compositeur, interprète, John Fogerty, à contre-courant de la musique progressive et de la vague des auteurs, compositeurs introspectifs, il retrouva d'abord l'énergie brute du rock'n'roll de Little Richard et de Buddy Holly, dans des 45 tours jaillissants, bourrés de joie communicative et d'évidence mélodique comme Proud Mary, Bad Moon Rising et Up Around the Bend. Fogerty était aussi profondément inscrit dans la tradition de la country et du blues américain, ainsi que du cajun louisianais, habile à manier des mots simples et suggestifs, animé par une honnêteté et une humilité exemplaires, qui rendent sa musique profondément humaine et universelle. Voici ce que put écrire le journaliste Philippe Auclair sur le Creedence Clearwater Revival. Bien sûr, il y eut ses compositions mémorables, mais le Creedence s'illustra aussi dans l'art de la reprise. Allez, quelques exemples de classiques repris par John Fogerty et sa bande. I Heard It Through the Grapevine, Susie Q, Midnight Special, Cotton Fields. Ainsi que I Put a Spell on You, également repris par la grande Nina Simone, mais originellement composé et interprété par Screamin' Jay Hawkins. C'est avec sa version, datant de 1956, que cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme, que prendra fin cet épisode d'Eldorado. Merci de votre écoute et de votre fidélité peut-être. À bientôt sur les ondes ou sur le site radio-eldorado.fr. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.
Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Oh, you're mine.